climatique.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons en quelque sorte réviser nos classiques et nous intéresser à la philosophie grecque, plus largement à l'héritage grec, avec notre invitée Catherine Goliot qui nous propose un hors-série référence du magazine Le Point qui s'intitule « Penser avec les Grecs ». Dans l'introduction de ce hors-série très riche, Catherine Goliot note que jusqu'ici la philosophie, l'art grec par exemple, suscitait l'admiration de tous. Mais les temps changent, le grec ancien est moins étudié et le siècle de Périclès, pour ne parler que de lui, fait l'objet de critiques. La Grèce antique pourrait-elle être victime, elle aussi, de la culture woke, s'interroge-t-elle. Nous allons le voir dans un instant. Idée donc, le magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez retrouver, télécharger sur le site de la radio, sur votre plateforme préférée et naturellement sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Catherine Goliot.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Nous devons vous remercier, en tout cas je vous remercie, de nous proposer périodiquement des hors-séries de référence, de haute tenue consacrées à la pensée. C'est une initiative de presse qu'il faut saluer par les temps qui courent.
Je vous remercie.
C'est une volonté de votre part d'essayer de mettre contre vents et marées les idées sur le devant de la scène.
Ce n'est pas une idée seulement de moi, même si c'est moi effectivement qui l'a mis en musique depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, mais c'est une idée du Point. Enfin, si vous voulez, l'idée, c'est de se dire que la culture, elle est ouverte à tous. Et ce n'est pas parce que on n'a pas forcément fait d'études, par exemple, que l'on n'a pas le droit de comprendre Aristote ou Emmanuel Kant. Donc, le principe des points référence, dont le hors-série dont nous parlons aujourd'hui n'est qu'un hors-série, puisque c'est un produit qui reprend un certain nombre d'articles.
C'est un hors-série, en quelque sorte.
Mais en fait, le point référence, c'est un magazine du Point, et ce magazine est fondé sur l'idée qu'on va donner au lecteur l'accès au texte. Donc si par exemple on parle de la Grèce, eh bien ils vont pouvoir lire Platon, Aristote, Euripide dans le texte. À côté, chaque texte sera expliqué, de manière à ce que chacun puisse avoir accès, mais aussi comprendre. Parce que souvent, quand vous n'avez pas les principes de base, vous lisez un texte et vous ne le comprenez pas. Mais là, l'idée, c'est voilà, un universitaire qui connaît très bien Aristote, par exemple, comme Pierre Pellegrin dans ce magazine, va vous expliquer ce que veut dire Aristote dans tel extrait de la métaphysique. C'est jamais très facile. Mais on fait la même chose pour Emmanuel Kant, pour Spinoza, pour Descartes, pour Karl Marx. L'idée est vraiment à chaque fois de rendre la culture abordable et vivante.
Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer ce numéro, avec donc des textes anciens, mais aussi des textes d'aujourd'hui, de consacrer un numéro à la Grèce? Et je vous ai senti, au fil de vos interventions dans ce numéro, de vos articles, un peu inquiète sur l'avenir de cet héritage.
Eh bien, en fait, depuis une trentaine d'années, on constate déjà en France, mais dans d'autres pays, que l'enseignement du grec est en baisse. Il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à l'apprentissage de la langue grecque en elle-même. Dans le même temps, on constate que s'élève une contestation, ou plutôt une remise en cause, de certains aspects de la culture grecque. Ça ne veut pas dire que ces remises en cause sont négatives. Mais le problème aujourd'hui, c'est que je pense que l'on connaît moins bien que par le passé la culture grecque. Par exemple, prenons l'exemple d'écrivains ou d'auteurs du 19e siècle ou du 20e siècle. Disons que jusqu'à l'après-guerre, bien les humanités, c'était apprendre le latin, le grec, apprendre la rhétorique dans le texte grec ou dans le texte latin, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et dans le même temps, donc, arrive une critique qui est directement liée à l'évolution de notre époque, qui est le rôle des femmes, le problème de l'esclavage, le problème de l'impérialisme, la violence, beaucoup de thèmes qui aujourd'hui nous sont chers et qui nous interrogent, et qui amènent en fait les critiques à regarder la Grèce à l'aune des problèmes d'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, ce serait intéressant de se poser d'abord la question, qui était l'homme grec vraiment ? De se poser une deuxième question qui est, mais finalement, comment regarde-t-on la Grèce ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, est-ce qu'on a le même regard sur la Grèce et les mêmes clés de lecture qu'on a pu l'avoir au XIXe siècle, au Moyen-Âge ? et ensuite d'essayer d'interroger donc ces critiques et leur demander mais qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi et quel est le résultat aujourd'hui.
Alors je vous propose, chère Catherine Goliot, de rejoindre quelqu'un qu'on aime bien dans cette émission, qu'on retrouvera bientôt pour parler des philosophies du monde. Il s'appelle Roger Paul Droit, il est philosophe, écrivain, chroniqueur. On connaît son rendez-vous hebdomadaire dans le monde des livres, par exemple. Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Est-ce que la culture, comme disait à l'instant Catherine Goliot, la culture grecque est remise en question selon vous ?
Je crois qu'elle continue à jouer un rôle tout à fait important, y compris effectivement dans les critiques qu'on peut lui adresser. En fait, nous n'avons pas cessé de réinventer les Grecs, de les interroger, de les connaître, mais aussi de les rêver. Et il ne faut pas oublier que c'est un pluriel. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est que quand on dit les Grecs, eh bien, on ne doit pas oublier qu'il y a à l'intérieur de c'est pas un bloc, et qu'il y a 1200 ans d'antiquité grecque, de textes grecs, c'est-à-dire quand il y a un écart considérable entre l'Athènes classique et puis l'Antiquité tardive, par exemple.
Donc il y a plusieurs lectures de la Grèce. Est-ce que la lecture contemporaine peut la remettre en quelque sorte en question avec ce que disait à l'instant Catherine Goliot, la culture woke, pour la résumer ainsi?
Alors, il me semble qu'il y a quelque chose de tout à fait ironique dans le fait que tout ce qui est reproché d'une certaine manière aujourd'hui aux Grecs est finalement déjà présent chez eux comme critique ou comme action différente. Qu'est-ce que fait Socrate dans le Ménon de Platon? Il s'adresse à un petit esclave qui n'a pas été instruit pour montrer que chez ce petit gosse qui a 12 ans et qui n'a pas reçu d'instruction existe une capacité de distinguer le faux du vrai, que ce sens du vrai, il existe en tout être humain, qu'il soit enfant ou adulte, esclave ou homme libre, barbare ou grec, et il y a là quelque chose qui est finalement profondément grec dans cette ouverture-là. De la même manière, c'est Platon qui a le premier, dans la cité idéale de la République, accorder aux femmes les accès au pouvoir, la capacité de faire du sport comme le faisaient les hommes, qui les a sortis, même de façon un peu imaginaire bien sûr, mais du gynécée, de l'éducation des enfants et des rôles traditionnels. Et finalement, c'est ça pour moi le paradoxe, c'est que quand on critique les Grecs, eh ben on leur est fidèle, parce que cette critique-là, cette manière de revenir sur ses propres habitudes, de mettre en question ses préjugés, c'est profondément l'attitude fondamentale que Socrate a mis en lumière.
Alors pour parler plus précisément de la philosophie qui est votre domaine, Roger Paul Droit, est-ce qu'Aristote et Platon ont la même importance aujourd'hui dans les travaux des philosophes, la même influence, pour être plus précis?
Écoutez,
que nous disent encore
mathématiciens...
Aristote et Platon?
Il y a des mathématiciens platoniciens comme Alain Cohn, il y a des philosophes qui sont profondément platoniciens aujourd'hui comme Alain Badiou par exemple. Évidemment, ça n'est pas d'une certaine manière le Platon du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais il y a quelque chose, je crois, de très important aussi à saisir, c'est chez Platon quelque chose qui est le mélange de la philosophie avec de la comédie. Les dialogues de Platon, ce sont des pièces de théâtre. C'est pas des traités de doctrine. C'est le seul auteur qui finalement n'a jamais exposé aucune doctrine de manière thématique à travers un traité particulier. Et il y a de tout chez Platon. C'est-à-dire de la science, de l'art, du gossip, des polémiques, de la poésie, de l'épopée. Et cette philosophie, je crois, est caractéristique d'une manière que peut-être nous avons perdue dans les temps modernes, c'est-à-dire ce que j'appelle moi une philosophie impure, où il y a un vrai travail théorique de fond, parce que rien n'est au hasard, et Platon fonde la philosophie comme telle, mais mêlée finalement à la vie quotidienne, à toutes sortes de personnages, d'attitudes, à une ouverture de la pensée par les dialogues et par la possibilité de traverser des attitudes différentes. Quant à Aristote, Aristote c'est évidemment le maître de ceux qui savent, comme on disait au Moyen Âge. Bien sûr, il est dépassé par des tas d'aspects, mais il reste, je crois, comme la possibilité de tirer des vérités de l'expérience, de l'étude des faits. Vous savez, dans le tableau de Raphaël, représentant l'école d'Athènes, bien connu, mais en Italie cette fois à la Renaissance, eh bien, Platon a le doigt vers le ciel et les idées, le monde des idées, et Aristote regarde en bas avec cette idée qu'en observant la nature, en regardant comment fonctionnent nos actes, nos pensées, notre langue, alors on peut extraire de cela des logiques internes. Et finalement, cette attitude-là, elle perdure aujourd'hui, bien sûr.
Donc on continue, Roger Paul-Droit, à penser avec les Grecs.
Mais bien entendu, même quand on pense contre eux, chaque époque les réinvente, si vous voulez. Il y a des Grecs particuliers, même dans l'Antiquité tardive, comme Jean Blic, Porphyre, Plotin, que l'on dit néo-platoniciens, et qui sont très différents, finalement, de ceux de l'Athènes classique, même qu'ils en héritent. Et puis, le platonisme de Cambridge au XVIIe siècle, de l'Italie avant, du XIXe siècle, tout ça est à chaque fois différent. Et Nietzsche réinvente les Grecs. On ne cesse de les refabriquer. Il ne faut pas oublier, par exemple, que Rousseau, ce qu'il admire, ce n'est pas l'Athènes classique, c'est la Sparte quasiment militaire et presque dictatoriale. Il ne faut pas oublier non plus, enfin bref, je ne vais pas être trop long, mais qu'il y a des clivages tout à fait importants entre la philosophie et la démocratie. Platon n'est pas un démocrate et il a en grande partie édifié son système contre la démocratie. Ça, c'est quelque chose sur quoi nous devons aujourd'hui revenir et réfléchir, parce que pour nous, la philosophie et la démocratie vont de pair. C'est faux historiquement, et c'est en grande partie un des héritages sur lesquels nous devons retravailler.
Merci Roger Paul-Droit. On vous retrouvera donc ces prochaines semaines pour parler des philosophies du monde, un tour du monde des philosophies. Vous êtes auteur notamment récemment, on en avait parlé dans cette émission, d'un livre sur Platon. Et si Platon revenait, que dirait-il de notre civilisation? Merci Roger Paul-Droit.
Merci à vous.
Catherine Goliot, vous avez écouté avec attention Roger Paul-Droit. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit sur la remise en question perpétuelle en fait de la philosophie des Grecs?
Oui, tout à fait, et c'est ce que nous avons aussi voulu montrer dans ce hors-série. Il est très intéressant, par exemple, de voir, et c'est ce que nous explique notamment Jean-Luc Martinez, qui est l'ancien président du Louvre, et donc que nous avons longuement interviewé, donc qui est un spécialiste de l'histoire de l'art, mais qui connaît très très bien la culture grecque, et qui l'explique bien. Il dit, mais finalement, au départ, la Grèce que l'on connaît, la Grèce que l'on aime, c'est la Grèce des Romains. Ce sont les Romains qui, quand ils prennent le contrôle, d'abord ils ont tout le temps été fascinés, par la Grèce.
Oui.
Et puis ils prennent le contrôle de la Grèce. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils découvrent des statues qu'ils trouvent formidables. Ils pillent les bibliothèques. C'est à ce moment-là qu'on a récupéré les manuscrits d'Aristote. Mais eux, ils n'ont pas le même mode de vie que les Grecs. Ils récupèrent des statues. On pense tous que les copies de statues que l'on trouve, par exemple, au Vatican aujourd'hui, eh bien, ce sont les statues des Grecs, mais pas du tout. La plupart des statues que l'on découvre et qui sont censées être des copies de statues grecques, à Rome, comme par hasard, c'est des nus. Il n'y a pas de nus en Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont récupéré des statues, ils ont coupé les têtes, très souvent, et ils les ont mises sur d'autres statues, déjà. Et, par exemple, on connaît aujourd'hui deux sculpteurs dont on a effectivement redécouvert des œuvres originales. Il y a Lysippe et il y a Praxitèle. Phidias, qui était le grand sculpteur de l'époque de Périclès, on n'a rien. on a des souvenirs. Parce qu'en fait, il y avait un genre littéraire à l'époque qui consistait à raconter une œuvre d'art. Et donc, on sait, c'est des descriptions, on sait à quoi ressemblait, par exemple, la statue Crise éléphantine, etc. Mais on n'a pas d'œuvre. En revanche, on a Lysippe et Praxitèle. Pourquoi ? Mais parce que Praxitèle, c'est le premier à faire des nus. Donc les Romains, ils ont adoré. Parce que qu'est-ce qu'ils font avec leurs statues ? Ben, ils les mettent dans leur salle à manger et ils les mettent dans leur jardin. Ils font des grottes de Vénus, par exemple. Et ben, ils ont besoin d'un nu de Vénus. Mais ils vont prendre une tête ici, ils vont prendre une tête là. Parce que la statuaire grecque, à la grande époque, est valorisée par Auguste, le Romain, empereur romain. C'est la période de Périclès. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de nu. Sauf peut-être quelques Vénus. Mais sinon, ce sont des stratèges. C'est Athéna qui est habillée, etc. Eh bien, ils sont tous habillés. Mmh. Autre invention, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, un monsieur qui s'appelle Winckelmann tombe complètement en amour devant les statues soi-disant grecques. Et qu'est-ce qu'il voit ? Ben, il voit des marbres blancs. Et il dit, la statuaire grecque était blanche. Et la statuaire, l'art grec, l'art classique, ne peut être que l'art de l'époque de Périclès, puisque c'était l'art que les Romains avaient favorisé, puisque c'était ça qu'ils aimaient. Les Romains, ils se sont pas du tout intéressés à ce qu'on adore aujourd'hui, par exemple, qui est l'art hellénistique. Mmh. Ça les intéressait pas. Et donc, il a dit, bah voilà, les statues, elles sont blanches. Donc l'art grec, c'est blanc. Au même moment, on découvrait que pas du tout. Il y avait des statues qui étaient peintes. Mais
très colorées, oui.
On est resté. Oui, oui. Donc en fait, à chaque fois, on a réinventé quelque part l'art grec ou la philosophie, parce qu'il y a eu exactement le même mouvement
c'est
sur la philosophie.
C'est ce que j'allais dire, Catherine Goliot, il s'est passé la même chose, et c'est assez fascinant de voir comment une œuvre, les textes d'Aristote, enfin ce qu'il en reste, ont traversé les siècles, et comment ont-ils voyagé en quelque sorte de continent en continent pour arriver jusqu'à nous.
Absolument. Alors, en fait, ce que l'on a aujourd'hui des textes d'Aristote, on pense qu'ils ne sont pas très bien écrits, et on pense que c'est plutôt des notes, parce que, en fait, à l'époque de son vivant, il était, comme Platon, réputé être un très très grand écrivain. Or, ce qu'on lit, c'est quand même pas tout à fait ça. Donc, manifestement, ça pourrait être des notes de cours qui, dit la légende, auraient été cachées dans une grotte et puis ensuite récupérées parce que, bon, Aristote a une vie un petit peu compliquée, il a dû partir en exil et ses manuscrits auraient été cachés par sa famille, récupérés, ramenés à Athènes et ensuite pris par les Romains et ramenés à Rome où là, ils ont été édités. Et comme l'a très bien expliqué Roger Paul Droit, la philosophie grecque, ce n'est pas seulement Platon et Aristote, et même par exemple le platonisme, ce n'est pas du tout uniquement Platon, c'est un certain nombre d'écrivains qui ont pu être des sceptiques, par exemple. C'est-à-dire que la fameuse académie créée par Platon, ce n'est pas du tout une école rigide avec des dogmes, pas du tout. Chaque fois qu'elle avait un nouveau directeur, à chaque fois, il y avait une inflexion différente. Et les Grecs, les Romains, ils lisaient Platon et Aristote en même temps. C'est-à-dire que souvent, ils lisaient l'un avant l'autre pour pouvoir comprendre, voyez. Donc, ils n'avaient pas du tout la même approche que nous. Donc, pendant l'Antiquité, on lit Platon et Aristote. Et puis après, avec l'époque barbare, on a perdu beaucoup de textes d'Aristote. On a plutôt lu Platon, et encore très très peu, parce qu'il y avait très peu de textes traduits. On a continué à parler le grec, notamment à Byzance, bien évidemment, mais chez les Latins, beaucoup moins. Donc ça veut dire que on ne comprenait pas forcément les manuscrits, on ne les traduisait pas, on ne les lisait pas. La grande inflexion vient grâce aux Arabes. Ils conquièrent le monde à partir du 7e siècle. Et là, ils arrivent en Syrie, au Proche-Orient, en Irak et en Perse, où là, ils rencontrent notamment des chrétiens ou des syriaques qui connaissaient le grec, parce que le grec avait été choisi par l'Église des premiers siècles pour l'écriture du Nouveau Testament. Et donc ces gens-là parlent le grec, ces gens-là ont des manuscrits grecs. Et les Arabes font traduire ces manuscrits, découvrent à ce moment-là la philosophie grecque, se passionnent, enfin quelques-uns. Faut pas non plus exagérer, c'était pas tous les Arabes, bien au contraire. Et les philosophes, comme Avicenne, Averroès, etc., sont des exceptions. Ce sont des exceptions. Ce sont des exceptions. Mais des exceptions fondamentales qui ont eu énormément d'influence parce que, pourquoi? Par exemple, il y en avait un qui était en Espagne. Donc, il a été traduit notamment par les Juifs. Et c'est ainsi que, progressivement, l'Europe a découvert une pensée par, en qui est passée par le monde musulman, par les, beaucoup de traducteurs juifs, et qu'ils ont récupéré, comme ça, Aristote. Là, on est déjà à l'époque du XIIe, XIIIe siècle, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, grand penseur de l'Église, se passionne pour Aristote et va utiliser Aristote pour essayer de fusionner, enfin en tout cas de penser la foi avec la raison. Moment fondamental de l'histoire de la pensée, grâce à Aristote. Mais dans, après, eh bien, les Turcs prennent Byzance. On est au XIVe siècle, et donc beaucoup d'intellectuels quittent Byzance avec des manuscrits, et arrivent à Florence, où là, comme de Médicis, récupèrent des manuscrits et demandent à Marcile Ficin de les traduire. À ce moment-là, la Renaissance va découvrir, redécouvrir Platon. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le Platon qu'il va, que Marcile Ficin va vendre, entre guillemets, de même que l'Aristote que Thomas d'Aquin va transmettre ou va traduire ou commenter, en tout cas, qu'il va nous expliquer et qu'on va adopter, parce que c'est ça en fait, on va adopter, eh bien, c'est pas forcément Platon, c'est le Platon aussi tel que le voit Marcile Ficin. Comme Stéphane Toussaint l'explique remarquablement dans ce hors-série, dans le même temps qu'il traduit Platon, il traduit un manuscrit attribué à Hermès Trismégiste, personnel mythique, qui est un des textes fondamentaux de l'ésotérisme occidental. Et en fait, il va avoir une vision de Platon qui est très ésotérique, très initiatique, qui est un Platon très très mystique, qui est un Platon en fait qui monte beaucoup plus au ciel, peut-être, que le Platon que aujourd'hui va traduire Luc Brisson ou que va nous présenter Roger Paul Droit, vous voyez. Et en fait, et ça, cette histoire-là, elle revient à chaque période. Et il y a une période qui est fondamentale, qui est le 19e siècle. C'est au 19e siècle que va naître le concept de miracle grec. C'est-à-dire que c'est au 19e siècle, en Occident, que l'on va considérer, avec des gens comme Winckelmann, mais aussi comme Renan, comme beaucoup de penseurs allemands notamment, que il n'y a rien de plus beau que la pensée grecque. Il n'y a rien de plus beau que la philosophie grecque. Il n'y a rien de plus beau que l'art grec. Et c'est peut-être aussi à cette période qu'on va un peu mythifier la culture grecque.
Oui, à tel point que vous vous demandez s'ils apparaissent un peu une illusion.
C'est à chaque fois une lecture. Ouais. C'est à chaque fois une lecture. Et il est très intéressant, par exemple, de se rappeler quel a été le combat de Jacqueline de Romilly, qui est disparue il y a quelques, il y a quelques années, mais pour qui la beauté était dans la culture grecque. Aujourd'hui, vous avez des gens comme Paulin Ismar, qui lui est un historien des idées, et qui dit, oui, mais attendez, là, vous avez oublié tous, vous avez oublié, en fait, que la culture grecque, la société grecque, elle s'est fondée sur l'esclavage. Pour Jacqueline de Romilly, bien sûr qu'elle savait que ça se fondait sur l'esclavage.
Mais quel regard, beauté, oui.
Mais quel regard a-t-elle voulu? Voilà. C'est qu'en fait, la culture grecque, comme le disait Roger Paul Roy, elle est immense. Aujourd'hui, par exemple, on commence à s'intéresser à Sparte. Sparte, qui pendant des années, Rousseau effectivement, et une bonne partie de la pensée allemande de la deuxième partie du XIXe siècle, a considéré Sparte comme étant bien supérieure à Athènes, parce que qu'est-ce qu'ils ont retenu dans Sparte? L'aspect guerrier.
C'est la caserne, oui.
La caserne. La caserne, l'impérialisme, la force, et grâce à ça, on va fonder un Reich. En gros, c'était un peu ça quand même, hein, en Allemagne. Mais Sparte, c'est pas ça seulement. Sparte, c'est aussi une société qui, avant le casernement, était une société poétique, une société où les femmes, par exemple, avaient accès à la culture beaucoup mieux qu'à Athènes. Les femmes, elles avaient le droit d'avoir un héritage, ce qui n'était pas le cas à Athènes.
À ceux qui pensent le monde.
Suite de ce numéro d'idées, nous sommes toujours en compagnie de Catherine Goliot, qui est la rédactrice en chef des hors-séries Le Point Référence, et qui s'intéresse dans le numéro d'octobre-novembre à la pensée des Grecs. Pensée avec les Grecs, c'est le titre de ce supplément du Point. Pour continuer à penser avec les Grecs, qu'il nous faut parler de politique au sens large. D'ailleurs, le terme vient d'eux, car qui dit Grèce dit la cité, et dit Monique Cantos-Sperber dans le supplément le logos, hein, tout est lié, l'invention de la cité en quelque sorte. Il faut rappeler que la civilisation grecque, en tout cas à cette époque là c'était des cités.
Alors la Grèce à cette époque, d'abord, c'est pas seulement le Péloponnèse, hein, on est bien d'accord, ni seulement même les îles de la Méditerranée. La Grèce, c'est aussi une partie de la Turquie actuelle.
D'ailleurs il y a une carte
Izmir,
fort précieuse,
Éphèse, et c'est aussi l'Italie. Platon a passé beaucoup de temps à Syracuse, à conseiller les tyrans de Syracuse. Ce qu'explique bien Monique Cantos-Sperber, c'est que cette civilisation, et là, elle se fonde surtout sur Athènes, parce que la démocratie, c'est Athènes, d'abord. Mais ce qu'elle explique très bien, c'est qu'en fait, cette démocratie, pour fonctionner, elle a besoin de la parole. Alors, cette démocratie, ça ne concerne en gros que 20% de
oui,
la population
elle
athénienne.
Elle précise que ce n'était pas une démocratie modèle, entre guillemets.
C'est une démocratie au sens où c'est le peuple qui est censé avoir la parole, et c'est le peuple qui est censé pouvoir délibérer et prendre les décisions. Mais ce peuple, il se réduit aux hommes libres, citoyens. Et pour être citoyen à Athènes, il faut avoir père, mère sur deux générations qui sont citoyens. Ce qui veut dire que c'est une citoyenneté du sang, c'est un droit du sang, dont sont exclues les femmes, dont sont exclus les étrangers. C'est-à-dire que même si vous vivez pendant deux siècles à Athènes, même si vous avez contribué à sauver la cité, vous ne serez jamais citoyen. Et en sont exclues toute la population servile. Population servile qui peut être une population étrangère, donc des esclaves qui ont été capturés lors de guerres. Et ils n'arrêtaient pas de se faire la guerre, faut pas l'oublier. Qu'ils n'arrêtaient pas des esclaves, des gens qui ont été vendus parce qu'ils étaient enfants d'esclaves, et ça peut être des Grecs. Par exemple, vous êtes très endetté, vous pouvez être réduit en esclavage. Et ces gens-là représentaient en fait ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte, bon, le terme est complètement anachronique, je le reconnais, mais c'est en quelque sorte le tiers-état, c'est-à-dire que ce sont des gens qui bossent. Alors, les étrangers bossent, ce sont les métèques, ils bossent aussi. Mais les esclaves, ils font tout. Ils font tout. Et il y a des esclaves qui sont agriculteurs, des esclaves qui sont intellectuels, les esclaves qui font tout le travail administratif, ce sont les cadres, ce sont les énarques de l'époque. Et puis, il y a aussi les esclaves sexuels.
Ouais. Et ça, c'est ce que mettent en avant certains chercheurs aujourd'hui. Hein,
si c'est ce qu'on met en avant aujourd'hui.
Ouais.
Mais il ne faut pas oublier non plus que la démocratie athénienne est une démocratie guerrière. Pourquoi est-ce que les femmes sont exclues? Et parce qu'elles sont censées ne pas savoir se battre. Le mythe des Amazones, c'est un mythe. Mais la femme, elle n'est pas censée savoir se battre.
Alors, il faut parler des mythes, parce que les femmes sont très présentes dans les mythes. Et les mythes jouent un rôle essentiel dans la
civilisation. C'est ce qu'explique Julia Sissa, oui. Justement. Elle remarque, donc, qui est une très grande chercheuse de l'université de Los Angeles, elle remarque que dans les mythes, les femmes sont les déesses d'abord sont extrêmement présentes. La déesse de l'intelligence, c'est Athéna. Elle est extrêmement puissante. La déesse de la chasse, c'est une femme. Mais, bon, dans les mythes, enfin, dans les poèmes mythologiques comme l'Iliade et l'Odyssée, les femmes sont très très influentes. Ulysse, il se bat avec Polyphème, d'accord, mais enfin, généralement, il est avec des femmes. Il y a Nausicaa, Calypso, et puis il y a sa femme, Pénélope.
Et oui, Pénélope.
Voilà. Mais d'après Julia Sissa, en fait, de fait même que la démocratie soit guerrière, fait que les femmes sont exclues, et que contrairement à l'oligarchie, ou à Sparte, où les femmes finalement sont beaucoup plus présentes, ont beaucoup plus de liberté, dans la démocratie grecque, athénienne, eh bien les femmes sont progressivement exclues. Et ce qui est quand même très intéressant, et là je reviens à ce thème de quelle lecture on a des Grecs, c'est cette lecture-là, en fait, que l'on va avoir. Pourquoi Aristote, il est formidable Aristote, mais pour lui la femme, elle n'est pas du tout capable de faire de la politique. On a beaucoup lu Aristote. Et donc, l'Église, qui a aussi beaucoup lu Aristote, eh bien, elle n'a pas lu Platon, hein, sur ce point-là. Et donc, on a exclu la femme de l'Église, du moins de la hiérarchie de l'Église, à mon avis, aussi sous l'influence d'Aristote. Et donc, sous l'influence des Grecs. Mais il faut avoir en tête que c'est vraiment lié à la démocratie athénienne, qu'il y a d'autres cités où les femmes ont peut-être eu plus de pouvoir à certains moments. Mais que notre lecture, elle est focalisée d'abord sur la démocratie athénienne. Et pourquoi la démocratie athénienne? Parce que Aristote, etc. Mais aussi parce que les Romains.
À une certaine époque, effectivement. C'est très daté, en fait. Oui. Il faut à chaque fois préciser à la fois
la
localisation et
Périclès,
l'époque.
C'est le 5e siècle. Oui. C'est très daté. Mais comme les Romains, Auguste, ai-je considéré que le 5e siècle, c'était l'âge d'or, et que c'était sur le 5e siècle qu'il fallait que les Romains se fondent pour développer eux-mêmes leur propre culture, parce que, évidemment, la culture latine n'est pas la culture grecque, on est bien d'accord. Mais ils s'en sont profondément inspirés, et nous sommes les enfants aussi des Romains. Et donc, nous vivons aujourd'hui avec des lectures de la Grèce, qui sont des lectures, pour beaucoup, héritées, et très honnêtement, nous avons pris ce qui nous arrangeait. Donc l'Église a pris ce qui l'arrangeait, par exemple.
Catherine Goliot, penser avec les Grecs, c'est penser grâce aux Grecs. Je pense notamment à Platon, à cette notion d'idée. Nous devons le titre de cette émission à Platon. Cette notion d'analyse en catégorie d'Aristote. Enfin, les deux nous ont aidés, nous aident, fondent notre raisonnement encore aujourd'hui.
Absolument, mais vous savez, par exemple, Roger Paul Roy le citait tout à l'heure, il y a des mathématiciens qui continuent d'être platoniciens parce que, à l'entrée de l'académie, il y avait écrit « N'entre pas ici qui n'est pas géomètre ». C'est pas tout à fait exactement ça, mais en gros, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour penser, il faut avoir une attitude rationnelle. Et ça, on l'a hérité des Grecs. C'est-à-dire, nulle part ailleurs, on a pensé comme ça. Vous n'avez pas ça dans la culture égyptienne, vous n'avez pas ça dans la culture mésopotamienne, qui sont des cultures fondamentales. Même en Inde, il y a une rationalité très très forte. Mais c'est vrai que nous, occidentaux, on s'est vraiment servi de Platon, mais aussi de l'expérimentation telle que Aristote nous l'a enseigné, parce qu'Aristote, c'est une encyclopédie. C'est absolument extraordinaire. Il a essayé de penser toutes choses, aussi bien la faune, la flore que, enfin, mais en passant par l'expérimentation, alors que Platon était beaucoup plus dans l'idée. Mais à chaque fois, il y a une rationalité. Et cette rationalité a aussi nourri la philosophie, le logos. Et ça, effectivement, nous sommes les héritiers des Grecs pour ça.
Et puis, il y a ce désir, cette curiosité, cette remise en question permanente héritée de Socrate.
Absolument, mais qui est aussi une interrogation sur soi. Franchement, aujourd'hui, où nous sommes dans une société dominée par, et même les médias, dominée par les réseaux sociaux, ce que nous dit Socrate, c'est « pense par toi-même, réfléchis, est-ce que tu sais ?» Quand tu avances telle chose, par exemple, tu dis « un tel a fait cela, les vaccins, je n'en veux pas, pour telle raison, parce que j'ai lu que, etc. » Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu dis? Et son interrogation va même plus loin.
Oui.
Et pourquoi tu le dis? Est-ce que tu sais? Et son interrogation va plus loin, c'est qui es-tu? Qui es-tu toi? Finalement, sans Socrate, est-ce qu'on aurait eu Freud? Est-ce qu'on aurait eu Jung? Je suis pas sûre. C'est-à-dire que le premier, en tout cas, il a dit, l'homme est un mystère qu'il faut creuser. Qui doit s'interroger lui-même. Parce que chez Socrate, il y a à la fois le doute, l'interrogation, mais la liberté. Vous avez le droit, vous êtes un homme, donc vous avez le droit de réfléchir sur vous-même. Et ça, c'est une leçon absolument exceptionnelle, dont on a toujours besoin, même encore plus peut-être aujourd'hui qu'avant, parce que aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations, mais en même temps, aussi, nous manquons de temps pour analyser ces informations. Et nous manquons de sources. Et comme nous sommes aujourd'hui dans une société qui doute de tout, ou qui est quand même extrêmement marquée par une sorte de théorie du complot qui fait qu'on remet tout en cause, Socrate nous dit, pose-toi des questions qui sont aussi les bonnes questions. Parce que remettre tout en cause, d'une certaine manière, c'est facile. Mais ça amène au nihilisme et ça amène à la vacuité. Là, c'est réfléchis par toi-même. ce qui est exactement le contraire d'adhérer, que le fait d'adhérer à une théorie du complot générale, etc.
Les Grecs qui nous ont laissé des notions encore très actuelles, hélas, comme la notion d'hubris, de surpuissance, la notion de ruse, la métisse. Moi, je regrette que la mythologie n'occupe plus la place qu'elle occupait il y a encore 20-30 ans dans les écoles. Parce que il s'agit d'aventures. Homère, l'Iliade subsiste. On en a parlé ici même dans cette émission avec plaisir avec Pierre Judet de la Combe. Mais sinon, cette notion de mythologie, cette invention, cette famille, ces guerriers, ces combats dans tous les sens, cette mythologie a l'air de disparaître un peu. C'est un effet de
non. Je sais pas si elle disparaît. Je crois que les histoires mythologiques, alors. Bon, souvent, elles sont réécrites pour les enfants, occupent un bon nombre de linéaires dans les librairies encore. Oui. Et puis, en fait, la mythologie, elle est dans tous les jeux vidéo. Les jeux vidéo, le cinéma, le jeu vidéo, le cinéma se nourrissent de cette mythologie. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que cette mythologie nous apprend. Je pense. Vous avez parlé de l'hubris. Qu'est-ce que c'est que l'hubris ? L'hubris, c'est la démesure. L'hubris, c'est Prométhée, qui était un titan, qui adorait les hommes. Et donc, son hubris a été d'aller voler le feu aux dieux. C'était un peu gonflé, ça s'est mal terminé pour lui. Très très mal terminé pour lui. Mais c'est très important dans la culture grecque. La culture grecque est une culture très compétitive. Il faut toujours être le meilleur, toujours aller plus loin. Eh bien, quand on veut toujours être le meilleur, toujours aller plus loin, parfois on se prend un peu la tête, on prend le melon, comme on dit un petit peu aujourd'hui, et familièrement. Et en général, ça se termine très très mal, très 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 mal. Le pauvre Prométhée, il souffre constamment parce que on lui mange le foie tous les jours, ça repousse. C'est atroce, c'est une mort atroce. Et ça, c'est une notion très très importante. La métisse, la ruse. Ulysse, c'est l'incarnation de la métisse. Eh oui. Mais ça, c'est très lié aussi à ce besoin de compétition, c'est-à-dire qu'il faut gagner. Pour gagner, comment on fait ? Et dans la culture grecque, la ruse est une valeur très, très, très importante, alors qu'elle n'est pas forcément dans notre société, d'ailleurs. Elle est considérée comme un défaut. Mais c'est vrai que dans la culture grecque, c'est très important.
Ce qu'il faut noter, c'est, en cela, peut-être que c'est à déconseiller aux enfants, c'est que cette mythologie grecque est pavée d'horreurs en tout genre, de combats, c'est un apprentissage, en quelque sorte, de la vie, non?
C'est vrai que, si vous voulez, les dieux grecs, ils passent leur temps à voler, ruser, violer.
Ouais, c'est des dieux assez spéciaux.
Et à encourager les hommes à se battre. Parce que l'Iliade,
c'est ça.
La guerre de Troie, elle a été encouragée par les dieux. En fait, les hommes se sont fait complètement manipuler par les dieux. Mais prenez la Bible, c'est pas forcément tendre.
Certes.
N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe quand Moïse descend du mont Sinaï et qu'il voit que les Hébreux ont sculpté un veau d'or, ils sont en train de l'adorer ? Il ordonne un massacre. L'Iliade a été écrit 8 siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes dans un univers violent où les civilisations passent leur temps à se battre. Et la culture grecque, je le répète, est une culture de guerriers. Ce n'est pas une culture de philosophes, en fait, fondamentalement. Au départ, ils passent leur temps à se faire la guerre. Non, effectivement, c'est pas très gai. Mais les jeux vidéo, c'est pas gai non plus. Non. Notre société est une société violente. Non. Donc ce n'est finalement que le reflet de la société que l'on vit aussi aujourd'hui.
Il y a des personnages qui demeurent, qui ont traversé les siècles, les millénaires. C'est, par exemple, je pense à Antigone. Qui est toujours citée, là, en revanche, qui est cette femme qui lutte contre la raison d'État, elle est toujours là, Antigone.
Alors, Antigone, effectivement, c'est l'objet de très grandes tragédies grecques. Mais elle a été très, très oubliée pendant très, très longtemps. Et finalement, elle est revenue sur le devant de la scène au XXe siècle, grâce à la fameuse pièce que vous connaissez. Mais Antigone, c'est un personnage merveilleux, très courageux, personnage de femme.
Oui, c'est pour ça que
extraordinaire.
Je voulais
personnage de femme extraordinaire qui défend les vertus familiales, qui défend ses frères contre son oncle. Alors son oncle, lui, peut-être qu'on raconte un peu l'histoire pour nos auditeurs. Donc Œdipe, résout
le
roi de Thèbes résout l'énigme du Sphinx, mais malheureusement sur le chemin il tue son père sans le savoir et il va coucher avec sa mère Jocaste et il va avoir 3 enfants. Quand il découvre, et à ce moment-là, la peste tombe sur Thèbes, et quand il découvre, grâce à un devin, en fait, c'est lui qui est à l'origine de cette peste monstrueuse parce que il couche avec sa mère et qu'il a tué son père, il se crève les yeux et il va partir, accompagné notamment de sa fille. Pendant ce temps-là, ses fils se battent pour prendre le pouvoir.
Étéocle et Polynice.
Voilà. Ils se battent pour prendre le pouvoir et, Créon, leur oncle, prend la régence. Et, le problème, c'est que les frères se battent et que l'un des frères va faire appel à une puissance extérieure pour pouvoir donc résoudre l'affaire et vaincre son frère, ce qui est un crime majeur. Et donc, son oncle le fait condamner à mort et dit il a trahi la nation et donc son corps ne peut pas être enterré et doit être mangé par les oiseaux, etc. Mmh. Ce qu'Antigone ne supporte pas. Et donc, elle va enterrer son frère. Et donc, elle va faire, d'une certaine manière, faire prévaloir l'amour familial, les valeurs familiales qui sont essentielles.
Et plus largement, les valeurs humaines contre la raison d'État, en quelque sorte.
Les valeurs humaines, vous avez tout à fait raison, contre la raison d'État. Mais alors, il y a 2 choses, en fait, dans cette histoire. C'est que elle se bat très courageusement. C'est vraiment la petite chef de Monsieur Seguin. Hein. Elle se bat contre Créon. Et Créon, qui dans la pièce antique, est coupable d'hubris. Parce qu'au nom de la raison d'État, en fait, il va contre les valeurs humaines. Et qu'il dépasse, en fait, son rôle d'homme. Donc, elle est une héroïne qui met en valeur aussi les défauts de la raison d'État et qui amène à s'interroger sur qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'homme, en fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant des siècles, en fait, elle a pas intéressé grand monde.
Homère nous interroge aussi pas mal. Hein.
Bah,
son périple nous apprend plein de choses sur le sort des humains. Hein, sur la tentation, sur le risque, sur le retour au pays avec toute la modestie qui s'impose.
Ben dans le cas d'Ulysse, oui. Dans le cas d'Ulysse, oui. Mais enfin, Homère, c'est Ulysse, aussi l'Iliade,
oui.
C'est aussi
oui.
La guerre de Troie.
Je pense à Ulysse. Oui,
et la
sûr,
guerre
oui.
de Troie, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la violence, c'est la jalousie, c'est la boursouflure de l'ego. Il y a énormément de sentiments, de défauts qui sont interrogés. Dans le cas de l'Odyssée, et donc d'Ulysse, c'est effectivement tout le problème du rapport de l'homme au Dieu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'Ulysse, pendant 10 ans, il peut pas retourner chez lui? C'est parce que le dieu de l'océan est furibard et qu'il a décidé de lui mettre des bâtons dans les roues pendant 10 ans. Voilà. Enfin, c'est plutôt des bâtons dans la voile parce que son bateau n'arrive pas à arriver. Mais c'est aussi la ruse, donc, comme on l'avait dit, c'est la passion. La relation avec Calypso est une relation très amoureuse, mais très belle. C'est la nostalgie. La nostalgie du pays natal, c'est le problème de l'identité, au bout d'un moment, qui est-il? C'est le problème de la fidélité, aussi, parce que Pénélope, qui est quand même un personnage très très ambigu, Pénélope, est-elle fidèle?
Finalement.
Ne laisse-t-elle pas la séduction jouer son rôle, en laissant tous ses prétendants qui pillent les terres, et qui, d'une certaine manière, enlèvent son trône à son fils? Elle joue avec cela. Vous voyez? Donc c'est d'une très grande ambiguïté.
Et le retour d'Ulysse n'est pas très facile non plus chez lui. Hein.
Et le retour d'Ulysse est très compliqué. Certes, très très compliqué. Il est menacé de mort, en fait. Mais effectivement, Homère, en fait, nous propose tout. Il nous propose le roman d'amour, l'épopée. Il nous propose la méditation sur soi. Et il nous propose une analyse psychologique qui est quand même très intéressante. Sachant quand même qu'à la fin, je le répète, ce sont quand même les dieux qui ont manipulé tout le monde. En gros, c'est quand même
Ils sont trop forts, ces dieux.
Ils sont. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ces dieux, ils sont peut-être très forts, mais au bout d'un moment, et ça aussi, c'est intéressant chez les Grecs, parce que c'est les premiers à avoir pensé ça, grâce à la philosophie, ils ont fini par se dire que ces dieux ressemblaient trop aux hommes. ils étaient trop menteurs, trop libidineux, trop violents, et que finalement, on pouvait peut-être se passer d'eux pour comprendre ce qu'était la nature. Et la force des Grecs par rapport aux Juifs, par exemple, qui ont fondé le monothéisme, c'est que les premiers, ils se sont dit, ok, peut-être que c'est pas les dieux qui sont à l'origine de tout ça. Peut-être que les dieux ne sont que des représentations, et que peut-être qu'il faut qu'on explique la nature autrement. Et donc, dès le VIe siècle, on voit apparaître à Millet un certain nombre de penseurs de la nature, de philosophes, qui vont poser les bases du raisonnement rationnel. Et ça, c'est unique, en fait. Et ça aussi, on en est les héritiers, bien évidemment.
Et c'est pour ça qu'il faut penser avec les Grecs. Alors, si on n'a pas donné envie à nos auditeurs de s'intéresser à la culture grecque, c'est qu'on a vraiment rien compris. Hein. J'ai l'impression quand même que on a donné l'envie de s'intéresser à ces Grecs toujours et encore et toujours. Catherine Goliot, malgré effectivement ces remises en question qui finalement ne vont pas loin, qui remettent pas en cause cet héritage.
Mais si vous voulez ces remises en question, il faut pas les mettre de côté non plus. C'est vrai que Roger Paulroy parle de Platon, de la République de Platon et de la place que Platon donne aux femmes. Oui, mais il était une exception. C'est vrai que nous sommes les héritiers d'un machisme grec. C'est vrai. C'est vrai que on a justifié l'esclavage pendant au moins deux siècles quand il y a eu la traite. Avec Aristote, c'était bien pratique. L'Église a pratiqué l'esclavage depuis les origines. Les papes avaient des galères somptueuses dont les galériens étaient des esclaves. Et ça paraissait normal pour tout le monde. Donc, il faut pas oublier ça. Parce que nous sommes les héritiers de ça aussi. L'impérialisme grec, nous en sommes aussi les héritiers. La violence que vous exprimiez tout à l'heure, bien oui, nous l'avons justifiée aussi. La mythologie, ça nous a permis aussi de la justifier. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que il y a aussi effectivement à côté une volonté de rationalisation, une liberté, une recherche de ce qu'est l'homme en tant que sujet et non pas en tant qu'objet, et qu'on n'aurait pas eu les Lumières, on n'aurait pas eu René Descartes, on n'aurait pas eu Spinoza, on n'aurait même pas eu Thomas d'Aquin, bien évidemment, sans les Grecs. C'est-à-dire que il faut, je pense, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ne pas être excessif, essayer d'être nuancé. Oui. Nuancer et savoir faire la part des choses.
Le plus difficile aujourd'hui, la nuance.
On n'a jamais été aussi critique par rapport aux Grecs. Et c'est vrai que notre société a tendance aussi, parce que c'est plus facile de faire des coups, c'est facile de se vendre sur tel et tel thème et d'apparaître comme un pourfendeur de vérité. Mais je pense qu'il faut lire les textes, réfléchir avec les textes et les remettre dans leur contexte. Nous sommes en 2021. La société n'est pas la même au moment où on vit avec l'ONU que quand Athènes s'opposait à la Macédoine ou que...
Au 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, effectivement.
Voilà. Hein. Ouais. Donc je pense qu'il faut être un peu sage avec les Grecs.
Par exemple, merci Catherine Goliot. Le hors-série référence s'intitule « Penser avec les Grecs ». Je le recommande vivement.
Merci beaucoup.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, notre adresse électronique.
Idées au pluriel, @rfi.fr.
Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.
RFI, la